C'est l'heure d'Affaires en cours avec vous, Marie Sorbier. Bonsoir.
Bonsoir, Arnaud.
La première version, connue ce jour du Lao Tzu, vient d'être publiée en français.
Oui, le Dao, que l'on peut traduire par la voie ou le chemin à suivre, n'est pas un système ni même une école, mais une lignée doctrinale que l'on doit à l'origine à trois auteurs, Lao Tzu, Zhuang Tzu et Li Tzu. Si l'origine du taoïsme reste incertaine, leurs écrits ont servi de référence tout au long de l'histoire. Ils sont tenus pour les pères fondateurs de cet enseignement. La bibliothèque de la Pléiade propose une version nouvelle de ces trois œuvres majeures. Je suis allée retrouver Rémi Mathieu pour qu'il nous en dise plus. Rémi Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sinologue, directeur de recherche au CNRS, vous avez traduit et annoté ce nouveau volume de la Pléiade. Pourquoi, peut-être pour commencer, avions-nous besoin d'une nouvelle traduction pour ces philosophes taoïstes ?
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la version qui a été publiée dans les années 1980 avait pour base des traductions elles-mêmes parues en 1960 qui s'appuyaient sur la tradition. C'est-à-dire qu'elle ne prenait pas en compte les découvertes archéologiques qui ont été faites à la fin des années 90, et en particulier en octobre 1993, dans un site du Hubei. Hubei est une province du centre-sud de la Chine, dans un lieu qui se nomme Guodian. Et Guodian est célèbre en archéologie parce qu'il a procuré des textes très importants, non seulement des textes pour partie inconnus, et là je ne parle pas de Lao Tzu, mais d'autres textes qui sont d'obédience confucianiste, mais donc ce Lao Tzu qui est important pour nous, pour la question que vous évoquez, dans la mesure où il représente la version les plus archaïques dont nous ayons le témoignage par l'intermédiaire de ce site archéologique. Ce site date du IVe siècle avant notre ère. En fait, il est plus ancien que les manuscrits de la Mer Morte et au moins aussi important, si je puis comparer ceci avec cela, dans la mesure où il nous donne un espèce de terminus aquo, c'est-à-dire une date à partir de laquelle on est sûr que le texte a existé, mais nous n'avons pas de témoignage antérieur.
Alors, qu'est-ce qu'elles apportent, ces nouvelles versions ?
Alors, ces nouvelles versions ont l'intérêt paradoxal d'être très semblables aux versions canoniques. Elles sont donc intéressantes à ce double titre, d'une part comme un témoignage d'une datation qui est non critiquable, on peut dire, quoique la date soit encore un peu incertaine, mais en tout cas cette date montre que le taoïsme, ou du moins une forme du taoïsme, existait à cette époque-là. Et je disais qu'il y avait des versions. En fait, il y a trois versions. C'est un peu le mystère de cette découverte. C'est-à-dire que ces trois versions ne sont pas absolument identiques, mais elles ont quand même tellement de points communs entre elles, d'une part, et de points communs avec la version qui sera la version finale, la version canonique. On peut par là témoigner du fait qu'il y a une permanence dans l'écriture de ce texte. Bien sûr, cela ne nous donne pas d'idées très précises, ni sur leur auteur. L'attribution à Lao Tzu est une pure convenance, il n'y a aucune preuve.
Là, on parle au singulier sur leur auteur, ou on pourrait aussi mettre un pluriel ?
Alors, il est difficile de mettre un pluriel, parce que cette cohérence laisse à entendre qu'il y a quand même un auteur bien réel. Mais la question reste entière, à savoir qu'est-ce que c'est que ces versions ? Donc, est-ce que ces versions, donc découvertes par l'archéologie, sont une anthologie, un choix donc. Est-ce qu'elles constituent des textes parallèles, c'est-à-dire parallèles à des versions qui circulaient à droite ou à gauche en Chine à ce moment-là ? Et ou bien est-ce qu'on peut les considérer comme la source ? À cette question, les spécialistes ne sont pas d'accord.
Est-ce que ces trois textes, qui sont quand même très différents dans leur forme, sont trois approches possibles pour se rapprocher du sens du Dao, qui reste quand même très mystérieux pour les Occidentaux ?
Alors, il n'y a pas que pour les Occidentaux qu'il est mystérieux, rassurez-vous. On peut dire que la nature du Dao est d'être mystérieux. C'est-à-dire que s'il n'était pas mystérieux, il n'y aurait pas de Dao. Dans la mesure où déjà Lao Tzu disait qu'il ne savait pas ce qu'était le Dao. Il ne pouvait pas trouver de définition et qu'il ne souhaitait même pas en parler. Parce que, disait-il, en parler, c'est montrer qu'on n'en sait rien. Et ceux qui en parlent, effectivement, montrent qu'ils n'en savent rien, et ceux qui n'en parlent pas sont les seuls qui montrent qu'ils ont vraiment compris de quoi il s'agit.
Et pourtant, c'est le concept base du taoïsme.
Alors, ce n'est pas un concept, c'est à peine une notion, puisque précisément, il n'y a pas de définition. C'est la grande différence entre la philosophie occidentale et la philosophie chinoise, et plus spécialement le taoïsme, c'est qu'on ne définit pas les termes. Donc, s'il y avait un terme dont on est sûr qu'on n'en trouvera jamais la définition, c'est bien le Tao. Donc on est tranquille sur ce plan-là. Alors effectivement, vous avez raison, il y a là trois approches avec trois auteurs, mais je suis un peu embêté d'utiliser ce terme d'auteur. Il y a là trois ouvrages. À l'exception de Lao Tzu qui a une cohérence interne indubitable, les deux autres ouvrages, à savoir celui de Chuang Tzu et celui de Lie Tzu, sont des ouvrages composites, c'est-à-dire il est absolument certain qu'ils ont été écrits par différentes personnes, à différentes époques, et avec des systèmes idéologiques qui ne sont pas totalement compatibles, c'est-à-dire qu'on trouve des contradictions à l'intérieur même de chacune de ces œuvres, en particulier du Chuang Tzu, qui est certainement le livre le plus passionnant, puisqu'il aborde à la fois des questions purement métaphysiques, des questions politiques, des questions d'hygiène corporelle, au sens large du terme, évidemment, et des questions existentielles, tout simplement. D'ailleurs, la notion même de taoïsme, c'est-à-dire la doctrine taoïste, n'existe pas. C'est une invention des bibliographes de l'époque des Han, c'est-à-dire, et ont inventé une école de pensée qu'ils ont appelée Tao Tia, c'est-à-dire l'école du Tao. Mais c'est une pure convention classificatoire. En fait, ces trois auteurs ne se reconnaissaient pas comme taoïstes.
Je renvoie nos auditrices aux auditeurs au tome Philosophe taoïste qui vient de paraître dans la bibliothèque de la Pléiade. Merci beaucoup Rémi Mathieu.
Et merci à vous Marie Sorbier.